France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée par Alexis Lacroix. Chères auditrices, chers auditeurs, on est très heureux de vous retrouver en ce début du mois de novembre. Un mois de novembre un petit peu particulier, assombri par l'anniversaire que nous allons vivre bientôt, qui est les 10 ans des attaques du 13 novembre 2015. Et pour ce faire, nous avons choisi d'entendre une voix très introduite justement dans l'interprétation du phénomène de la radicalité islamiste, de l'islamisme radical, mais aussi bien sûr du djihadisme. Gilles Kepel, bonjour.
Bonjour.
C'est un honneur, un bonheur aussi de vous recevoir dans divers aspects de la pensée contemporaine, surtout dans ces circonstances. Vous êtes politologue, vous êtes universitaire, vous êtes spécialiste du monde arabe et en particulier, effectivement, je le disais, de l'islamisme radical. Je ne peux pas égrener à ce micro, elle serait trop longue, votre bibliographie, vos travaux savants, mais aussi vos essais d'intervention dans l'actualité, Passion arabe aux éditions Gallimard il y a quelques années, Le bouleversement du monde plus récemment aux éditions Plomb, Enfant de Bohème également chez Gallimard, et vous nous revenez avec un livre coécrit avec Jean-François Ricard, Antiterrorisme, la traque des djihadistes. Il est dans l'actualité, à l'évidence, ce livre. Alors, ma question très simple, puisque le propos de ce livre est largement centré sur la société française et sur les réfractions dans la société française de ce que vous appelez un djihadisme multiforme. 10 ans après ces attaques de 2015 qui ont scandé de manière tragique l'actualité française il y a 10 ans, comment vous jugez, comment vous estimez la résilience actuelle de la société française?
Alors, ce livre, en fait, a été écrit, c'est pour moi une expérience tout à fait extraordinaire, à quatre mains avec le procureur Jean-François Ricard.
Absolument.
Qui a, depuis le milieu des années 1990, était d'abord juge d'instruction sur les premiers dossiers terroristes, et notamment, c'est lui qui a élucidé l'affaire de l'attentat qu'avait fait le GIA dans le RER Saint-Michel, ça fait maintenant 30 ans.
Hein, il faut rappeler,
en juillet 1995,
voilà.
Et qui ensuite a, à travers sa carrière, fini comme procureur, le premier procureur national antiterroriste, créateur du PNATS, qui a mis en place toute la justice antiterroriste. Et quelque chose qui est un phénomène exclusivement français, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un bon nombre de magistrats spécialisés sur ces questions, qui ont permis de judiciariser ces infractions et ces crimes dans un grand nombre de cas, et surtout de ce fait de mieux comprendre le phénomène et de mettre un coup d'arrêt à ces principales manifestations, même si malheureusement on n'est jamais à l'abri. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, ce livre qui a été écrit par, si j'ose dire, un prof et un proc, a permis de mettre ensemble des pièces d'un puzzle. Chacun d'entre nous en avait une partie. Moi, j'avais commencé ma carrière en Égypte en 1981.
On va y revenir.
Voilà, avec l'assassinat de Sadat,
de
si
Sadat.
J'ose dire, qui s'était passé
qui est dans votre livre, d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, Gilles Kepel, une des scènes inaugurale de l'installation du djihadisme dans le paysage international, de l'actualité internationale.
Oui, tout à fait, et puis aussi qui pour moi a été quelque chose, un choc terrible, parce que d'une certaine façon, c'est ce qui a déterminé les 40 années qui ont suivi, dans lesquelles j'ai tourné en permanence autour de ce type de phénomène, et dont j'ai suivi l'évolution. Je n'imaginais pas, lorsque Sadat a été assassiné au Caire, alors que j'étais sur place, que je serais moi-même victime d'une menace djihadiste en 2016, donc 36 ans plus tard, à l'occasion de mon intervention dans une prison à Villepinte, où un recruteur de Daesh, mécontent de ce que j'avais dit aux détenus, à leur demande, j'étais invité par eux, avait ensuite décidé qu'il fallait me liquider. Moi, j'avais à la fois la connaissance des textes, hein, je lisais cette littérature en arabe, j'arrivais à mettre les choses dans le contexte de l'effondrement du nationalisme arabe, de la montée de l'islamisme. Je pouvais identifier les différents groupes, etc. J'avais rencontré aussi un certain nombre de ces dirigeants de ces mouvements, jusque parfois certains des terroristes recherchés, comme le fameux Égyptien Abu Hamza, qui était surnommé le capitaine Crochet, puisqu'il avait perdu un œil et un bras en manipulant des explosifs.
Mais le volet judiciaire, Gilles Kepel, vous faisait défaut.
Tout à fait. Voilà. Je n'avais jamais été, c'est pas mon rôle, n'est pas de juger, évidemment, avec des gens qui avaient été arrêtés, qui étaient interrogés, et même quand j'avais été invité au procès du 13 novembre, justement, et les parties civiles ont lancé une offensive, certaines parties civiles, la défense, excusez-moi, les parties civiles voulaient m'inviter, justement, la défense d'un certain nombre d'accusés avait lancé une offensive très violente contre moi en disant « ça n'est pas un expert, il n'y connaît rien, etc. » parce que, évidemment, ils étaient pas désireux que je vienne. Et donc, Jean-François Ricard, lui, a commencé à peu près en même temps que moi, mais il le rappelle dans le livre, autant il connaissait la procédure judiciaire, autant dans les manuels de droit de l'époque, le mot terrorisme était absolument absent. Et paradoxalement, nous connaissions pour nous connaître. Moi, je suivais les procès, ce que j'en savais, et lui-même lisait mes livres. Et lorsqu'il a été nommé procureur national antiterroriste, donc j'ai remarqué qu'il faisait parfois référence à mes travaux, donc nous nous sommes rencontrés. Et quand nous avons l'un et l'autre été mis à la retraite en septembre 2024, d'ailleurs un peu en anticipation, car ce qu'on écrivait, ce qu'on faisait ne plaisait pas toujours aux autorités de tutelle, nous avons décidé de mettre nos efforts en commun, nos connaissances en commun, pour écrire ce livre qui est, pour moi, qui a été une expérience extraordinaire, parce que j'ai appris énormément de choses, je crois lui aussi. Et nous avons essayé de créer une espèce de, j'ose pas dire un fait social total, mais quelque chose qui est une vision complète, assez exhaustive, complète, de cette mouvance djihadiste qui est passée à l'acte terroriste depuis le début des années 90 pour la France, au mois des 80, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Dominique Bernard.
C'est une sorte de cartographie globale du djihadisme, de ses réseaux.
Une cartographie et aussi une histoire, parce que justement, ce qui est très important, c'est qu'il a muté.
Alors justement, on va l'évoquer. Vous avez notamment souligné au moment des attentats de 2015, j'aimerais quand même qu'on en dise un mot en introduction, Gilles Kepel, vous signez Antiterrorisme, la traque des djihadistes avec Jean-François Ricard, livre passionnant aux éditions Plomb qu'il faut se procurer pour comprendre sur la longue durée, vous avez raison, le phénomène. Mais effectivement, vous êtes vous-même un des interprètes de ces théoriciens de ce qu'on appelait le djihadisme de troisième génération, notamment c'est le théoricien Al-Souri. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ?
Oui, en fait, il y a eu plusieurs types de djihadisme. Le premier, donc, dont le GIA était un exemple, c'était ce qu'on appelait à l'époque, je traduis en français, la lutte contre l'ennemi proche. Il fallait faire tomber le régime algérien, égyptien, bosniaque et autres. Et or, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les masses n'ont pas suivi les militants et ont finalement canné. Et c'est ce qui a fait songer Ayman al-Zawahiri, qui était l'idéologue puis le successeur de Ben Laden et Al-Qaïda, qu'il fallait changer de braquet et mettre en place le djihadisme contre l'ennemi lointain.
De l'ennemi plus lointain, c'est-à-dire voilà, notamment en terre européenne, naturellement.
D'abord, pour eux, surtout aux États-Unis. C'était l'attentat du 11 septembre et ses suites. Mais qui, là encore, n'a pas été capable d'avoir des conséquences de bouleversement. Ça a été un traumatisme mondial, mais les sociétés n'ont pas bougé. Et donc, il y a un troisième individu, après, qui s'appelait Abu Moussab al-Souri, qui a fait ses études en France, d'ailleurs, et qui, au modèle léniniste de Ben Laden, d'une certaine manière, avait substitué une sorte de modèle en réseau si j'ose dire, en rhizome, un peu comme Gilles Deleuze avait succédé au marxiste-léniniste. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement fortuit, parce que Souris, qui était francophone, avait étudié à Jussieu, où il y a un certain Gilles Deleuze était professeur. Alors, je ne sais pas s'il avait suivi ses cours, mais en tout cas, à l'époque, c'était très présent, si vous voulez, dans le microcosme gauchiste, qui n'est pas encore islamo-gauchiste, de la capitale. Et ça a été très important.
Alors, on a la chance d'être avec vous ce matin, ce dimanche matin. Nous sommes à quelques jours de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Ils vont donner lieu, évidemment, à des prises de parole, politiques notamment, mais pas seulement, d'intellectuels comme vous. C'est évidemment un bonheur de vous avoir ce matin avec nous sur France Culture. Antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose pour la France aujourd'hui. 10 ans après, les avis divergent. Certains pensent que le pays n'a pas de résilience face à ce phénomène. D'autres pensent en revanche qu'il en a. Quelle est votre opinion, votre analyse personnelle, Gilles Kepel?
Je crois qu'il en a une, et notamment la création du parquet national antiterroriste a été un formidable élément de résilience voulu par l'État, mais à l'instigation justement de magistrats comme Jean-François Ricard, qui se sont battus pour que les institutions disposent d'une structure qui soit en capacité de lutter contre ce phénomène djihadiste et terroriste, en dépit de ces mutations. Puisque après la phase Daesh, qui a été celle de Souris, ce terrorisme en rhizome, si vous voulez, on a eu une autre phase que j'ai appelée le djihadisme d'atmosphère, où il n'y avait plus besoin ni de donneurs d'ordre, ni de réseau. Mais c'est ce qui est aujourd'hui le véritable danger à l'heure des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc. À savoir que on va sur les réseaux tout en ayant des prédispositions. Et là, on va soi-même identifier une cible et passer à l'acte. Le premier, le plus effrayant et spectaculaire des victimes, ceux qui ont été victimes, ça, c'est bien sûr le professeur Samuel Paty.
Paty, bien sûr.
Où le tueur à partir de la consultation de réseaux sociaux qui l'incriminait faussement pour avoir blasphémé le prophète, l'accusatrice n'était pas allée au cours, etc. Et qui a été ensuite, le père a relayé ça, ensuite ça a été relayé par un militant pro-Hamas partout, et c'est ainsi que le terroriste s'est emparé de cette affaire, il ne connaissait pas du tout cet individu, et a pris sur lui de mettre en œuvre l'assassinat dans des circonstances absolument horribles, puisque ce sont des jeunes, des mineurs, qui lui ont désigné la cible.
Alors Gilles Kepel, nous sommes dans divers aspects de la pensée contemporaine ce matin. Vous nous revenez avec un essai passionnant, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, avec Jean-François Ricard, le procureur Jean-François Ricard, on vient d'en parler. Il y a pour la République le volet, évidemment, judiciaire, qui permet d'anticiper de tels passages à l'acte. Vous venez de parler du djihadisme d'atmosphère. J'imagine que les pouvoirs publics veulent prévoir ce type de passage à l'acte. Mais il y a aussi un volet, j'allais dire, plus spirituel, plus philosophique, plus anthropologique, qui passe par l'éducation. Où est-ce qu'on en est, justement, 10 ans après les attentats de 2015, sur ce plan-là, évidemment assez essentiel, de la prévention, de la défense des valeurs républicaines, de la défense de la laïcité, etc.
Eh bien, c'est justement là que le bas blesse. Hein. Il y a quelques jours, la DGSI a diffusé dans la presse des informations sur l'accroissement du nombre de mineurs qui avaient été arrêtés grâce à la surveillance des réseaux sociaux, puisqu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte, parce qu'ils avaient regardé comment faire une bombe, etc., pour agir.
Toujours dans le cadre de ce que vous appelez ce djihadisme.
Oui, justement. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que cette atmosphère virtuelle, elle va créer une espèce d'horizontalité du passage à l'acte, puisque au fond, ces jeunes sont à peu près indifférents à la transmission des générations. C'est-à-dire que même si un prof ou un imam non djihadiste leur explique que ça n'est pas ça, c'est la religion, si vous voulez, ça n'a pas de valeur face à l'ubiquité des réseaux sociaux qui arrivent immédiatement. Et on est dans une période où, même pour les peuples du livre, on ne lit plus rien. La jeune génération a son téléphone est sollicité en permanence avec des laps d'attention très faibles et fait son petit puzzle elle-même. Et c'est ça qui est aujourd'hui extrêmement frappant, c'est l'incapacité que nous avons à faire en sorte que des instances de savoir et de connaissance puissent passer par-delà l'ubiquité des réseaux sociaux.
Alors ce matin, Gilles Kepel, sur la base de ce constat, est-ce que vous avez envie de nous faire entendre un message d'optimisme mesuré ?
Oui, bien sûr, parce que d'une part, il y a eu une nette décélération des attentats, parce que, comme l'a montré l'information livrée par la DGSI à un quotidien récemment, la veille est très importante, puisque en réalité les réseaux sociaux, le monde numérique, c'est une arme à double tranchant. Ça permet d'aller très vite pour savoir comment on fabrique l'explosif, etc., mais on laisse des traces. Et donc les machines sont quand même aujourd'hui encore en possession des États les plus importantes, et on a pu arrêter et identifier un grand nombre de gens, ce qui implique une veille très importante. Mais cette veille ne sera toujours qu'en train de courir derrière le phénomène si on n'arrive pas à éradiquer les idées qui sont là, et c'est là que justement l'éducation a une grande importance. Une éducation mise à mal aujourd'hui dans les lycées et dans les universités plus encore, par une sorte de complaisance avec les mouvements djihadistes de la part de ceux qui voient dans l'expression du déni de la violence, etc., une manière de récupérer des voix dans des quartiers périphériques.
Voilà,
ça, c'est un enjeu.
Et vous rappelez, d'ailleurs dans votre livre Antiterrorisme, la traque des djihadistes, que c'est une vieille histoire aussi qui remonte à la fracture qui a existé dans les gauches intellectuelles, avec un Michel Foucault, par exemple, qui était enthousiaste de la révolution iranienne en 1979, face à d'autres voix qui étaient beaucoup plus sceptiques et qui, évidemment, sur la durée, ont eu raison.
Mais en France, on préfère toujours avoir tort avec Foucault qu'avoir raison avec Aron, comme vous le savez.
Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir fait un tour par divers aspects de la pensée contemporaine. Je rappelle, Anti-terrorisme, la traque des djihadistes, avec Jean-François Ricard aux éditions Plomb. Faut se le procurer, c'est important pour comprendre.
Merci beaucoup de votre invitation.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui donc avec Gilles Kepel, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique Jean-Guilain Meige, l'indispensable Jean-Guilain Meige, et à la coordination éditoriale, la non moins indispensable Claire Poinsignon. Au mois prochain, et bon dimanche à tous.